Olivier Dubois est libre. Retenu en otage durant près de 2 ans dans les confins du nord du Mali, le journaliste a tout de même pu avoir accès à une radio durant sa captivité. Écoutez ce qu'il a dit sur RFI.
J'écoutais RFI en shortwave, on pouvait capter RFI de 4h du matin à, si je ne me trompe pas, 10h, ça coupe à 10h, ensuite c'est de midi à 13h et enfin de 17h à 21h. Donc c'était les plages où j'écoutais RFI, où je pouvais écouter RFI.
Comme d'autres otages avant lui, Olivier Dubois écoutait donc la radio, au milieu du désert, alors qu'on le sait, les ondes FM dépassent rarement les 100 km. Comment ? Il vient de le dire, via les short waves, les ondes courtes. Salut, c'est Steven Jambeau, vous écoutez l'Atelier des médias. Pendant une vingtaine de minutes, je vous emmène à Issoudun, dans le centre de la France, où j'ai visité les gigantesques antennes qui émettent en ondes courtes les programmes de la radio mondiale.
C'est bon pour vous ?
C'est bon.
L'Atelier des médias.
C'est pas bien long.
Donc on voit bien que c'est l'ensemble de la France qui mobilise contre cette réforme, il faut que le gouvernement tourne.
Il y a la radio qui démarre. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter ?
Oui, je suis Denis Morel, futur responsable du site d'Issoudun.
Et ensemble, on va aller voir justement un émetteur Alice. Donc.
Un émetteur Alice, ce dernier s'appelle Amazon.
Et donc c'est un de ceux qui peuvent diffuser RFI en ondes courtes ?
Oui, en analogique.
Donc là, on arrive devant une grille qui est en train de s'ouvrir. Chaque pylône, donc, qui fait 80 mètres sur 80, est entouré d'un grillage. Et il y a une zone au sol de sécurité.
Oui, c'est une zone sur laquelle, au-delà de laquelle, si l'émetteur est en fonctionnement, on ne doit pas venir. Donc quand les gens viennent sur site, l'émetteur est de fait arrêté.
Ah oui, donc là, pour nous, il n'y a aucun danger. Non. Mais il pourrait y en avoir si le site était en fonctionnement.
Je l'aurais fait arrêter avant de partir.
Donc il y a même carrément en face de nous une affichette avec écrit « Soins aux électrisés ». On ne va pas faire n'importe quoi.
Pour faire le tour entier, l'antenne met 3 minutes. Pour faire une révolution de 360 degrés, elle met 3 minutes.
Le site d'Issoudun diffuse en ondes courtes depuis 1950. Et les antennes Alice, comme celles que j'ai visitées, ont été installées au milieu des années 90. C'est Télédiffusion de France, TDF, qui est chargée de la gestion des émetteurs et de la diffusion, qui se fait par envoi d'ondes vers la ionosphère, une des couches de l'atmosphère qui va servir de miroir. Direction la station de diffusion, où je retrouve le responsable du site, passionné des ondes courtes.
Oui, moi je m'appelle Philippe Ourdouilly, je suis le responsable du site de diffusion ondes courtes à Issoudun.
Depuis combien de temps est-ce que vous travaillez sur ce site ?
Sur ce site, moi je travaille depuis une vingtaine d'années.
Donc on peut dire que vous le connaissez par cœur ?
Oui, à peu près, oui. Mais on en découvre encore de temps en temps quand même.
On est face à une baie vitrée, on a en face de nous des antennes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces antennes ?
Oui, ce sont les antennes qui permettent d'envoyer les signaux radio de RFI vers une bonne partie du monde tous les jours de l'année depuis 75 ans. Chaque émetteur a son petit nom. La spécificité, c'est qu'ils ont tous le nom d'un fleuve, donc un des grands fleuves de la planète, Volga, Danube, Oural. L'image étant de dire que ces fleuves-là traversent les frontières sans blocage. C'est comme le font nos antennes, elles sautent les frontières sans blocage.
Alors en l'occurrence, on a...
Or, on a donc dans la liste Volga, Danube, Oural, Amour, Mekong, Gange, Tigre, Saint-Laurent, Mississippi, Amazon, Sénégal et le dernier c'est Nil. Donc ces 12 émetteurs-là sont en capacité d'associer des diffusions. Généralement on en sollicite au maximum 10 et on en conserve 2 pour sécuriser les 10 autres. Alors dès qu'un émetteur a une défaillance, automatiquement notre système d'exploitation engage la diffusion sur un émetteur de repli pour limiter les coupures. Et elles assurent les couvertures vers l'Afrique et le Moyen-Orient.
Juste pour RFI ?
En grande majorité pour RFI, mais aussi pour d'autres diffuseurs. Les Japonais de la NHK, les Coréens de la KBS, par exemple, utilisent les mêmes antennes que RFI pour assurer leur diffusion vers les destinations internationales.
Donc là, on parle d'ondes courtes. Expliquez-nous comment ça marche ?
Alors les ondes courtes, c'est une gamme d'ondes qui est utilisée depuis le début de la transmission radio. Sa propriété, c'est de pouvoir se propager autour de la planète par rebond sur la ionosphère. Donc on peut arriver à partir d'un site comme Issoudun à cibler des destinations jusqu'à 15 000 km de distance.
Par contre, si je me mets au pied de l'antenne avec un récepteur onde courte, je ne capterai rien.
Bon, vous capterez un peu de signal, mais c'est pas du. Mais vous, si vous éloignez de 10 km, il n'y aura plus rien du tout. Ça va s'éteindre. La couverture est quasiment nulle au pied de l'antenne. Elle est vraiment destinée à être utilisée à peu près à 800 km de distance. À partir de 800 km de distance, pas avant.
En gros, vous choisissez en fonction de l'orientation de l'antenne la zone du monde que vous souhaitez toucher.
Voilà, c'est ça. Le client nous dit, moi, je voudrais couvrir le Sénégal entre 10h et 12h. On calcule, nous, quelle est la bonne fréquence qui va permettre de couvrir cette zone-là. On oriente notre antenne, puisque cette antenne, elle tourne à volonté, en fonction de la cible qu'on veut couvrir. Et puis, on configure l'antenne de manière à ce que l'émetteur démarre à 10h et s'arrête à 12h, avec la langue et le programme que le client nous aura fourni sur ce créneau horaire. Donc la propagation dans les bandes ondes courtes fonctionne par rapport à une réflexion sur la couche de la ionosphère. Et il faut qu'on calcule que la réflexion se fasse à un moment où cette ionosphère est éclairée par le soleil, de façon à ce qu'il ionise la couche et qu'elle serve de miroir à nos ondes. Donc c'est toute le calcul amont de la couverture par rapport à un choix de fréquence et d'antenne, c'est de se caler sur un cycle solaire qui a 11 ans. C'est-à-dire que la Terre et le Soleil ont une position mutuelle qui a un cycle de 11 ans. Donc sur ce cycle de 11 ans, il faut qu'on calcule dans la saison de diffusion où on en est, de manière à savoir quelle couche ionosphérique sera éclairée dans le créneau de diffusion qu'on veut opérer. Et par rapport à ça, on va réussir à faire un premier bond. Par exemple, d'Issoudun, on va commencer à avoir un premier bond qui va redescendre sur le Sahara. Puis de là, nos ondes vont rebondir sur le Sahara pour remonter dans l'ionosphère et redescendre quelque part sur le Nigeria pour couvrir ce pays entre 9h et 10h TU.
Donc vous faites des maths tout le temps?
On est tout le temps en train de calculer. Et puis à chaque saison, en fonction de la position solaire qui favorise les propagations, il faut recalculer les fréquences. On change en général entre 4 à 5 fois dans l'année la fréquence pour assurer une même qualité de couverture dans un même pays, par exemple.
Et en fonction de la météo, de la zone cible, ça change quelque chose ou pas pour vous ?
Non, c'est la propagation est liée à la puissance d'éclairement du soleil, sur l'ionosphère. C'est ça qui permet d'avoir une bonne propagation onde courte. C'est pas du tout la météo.
La météo n'influe pas.
La météo locale n'influe pas.
Et ni ici, c'est-à-dire que en l'occurrence aujourd'hui à Issoudun, le ciel est couvert, il pleut, ça ne changera rien pour votre diffusion du moment que vous émettez assez fort, c'est ça ?
Voilà, le rendement de la transmission n'est pas du tout impacté par les conditions météo à l'émission ou à la réception.
Vous écoutez l'atelier des médias de RFI sur le site TDF d'Issoudun, d'où sont émis en ondes courtes les programmes de plusieurs radios, dont RFI.
Oui, alors je suis Jérôme Irigoyen, je suis directeur du développement et en charge des radios internationales. Donc plus particulièrement pour ce qui concerne ondes courtes, je m'occupe de la partie commerciale en relation avec l'ensemble des clients radio qui nous font confiance. Mais je suis aussi toute la partie études, coordination des fréquences. Je suis le représentant auprès des instances internationales pour que les diffusions se déroulent au mieux, dans les meilleures conditions.
Alors on va essayer d'aborder tout ça avec vous. Dans la dimension commerciale, combien de clients avez-vous en matière d'ondes courtes précisément ?
On a environ 7-8 clients. On a des clients majeurs, je pense à RFI, bien entendu, qui représente plus de la moitié de notre activité. Mais on a d'autres grands diffuseurs internationaux aussi qui nous font confiance.
Qui, par exemple ?
Je pense à NHK, donc le diffuseur japonais. Je pense à KBS, le diffuseur coréen. Je pense à Deutsche Welle aussi, nos voisins et amis allemands, qui utilisent aussi nos infrastructures pour la diffusion en ondes courtes.
Justement, ces clients-là, ils vous sollicitent pour ce savoir-faire et ils ont des besoins qui parfois sont complètement différents.
Alors, il y a au moins un point commun, la nécessité de couvrir des zones privées d'infrastructures. Soit parce qu'elles n'ont jamais été bâties, on est dans des zones d'Afrique, soit parce qu'on est privés d'infrastructures. Je pense aux pays qui sont en guerre, je pense aux pays où la censure est importante. Et donc là, l'onde courte reste finalement le moyen ultime de communiquer vers ces populations, puisqu'en fait, on s'affranchit de toute contrainte locale. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ça, c'est le point principal.
Vous participez aux réunions où se décide justement l'attribution des fréquences en onde courte. Expliquez-moi comment ça se passe.
En fait, deux fois par an, c'est une centaine de pays qui se réunissent, représentant des grandes radios, représentant les autorités de régulation et représentant aussi les opérateurs techniques de diffusion. Donc on se réunit deux fois par an et on établit le plan de fréquence des diffusions qui auront cours les mois suivants. Donc c'est une espèce de gentleman agreement, parce que tout le monde vient avec ses fréquences à diffuser et il faut que tout le monde se mette d'accord de manière à ce que on ait une attitude positive. On n'est pas là pour brouiller un autre diffuseur, mais trouver des compromis. Donc c'est voilà, le déroulement, c'est ça, c'est se mettre d'accord sur des plans de fréquence, puisque du fait de la propagation ionosphérique telle que ça a été expliqué, la propagation ionosphérique introduit des variations dans le temps, il y a des variations jour-nuit, propagation, il y a des variations aussi au cours de l'année, donc la nécessité de revoir systématiquement les plans de fréquence.
C'est un gentleman's agreement, vous nous disiez, il n'y a pas de guerre des ondes en matière d'ondes courtes dans ce genre de réunion. Tout le monde réussit à peu près à se mettre d'accord.
Mais il faut, on n'a pas le choix, parce que finalement, tout le monde veut véhiculer son message. Donc, brouiller quelqu'un, c'est être brouillé. Donc, ce serait une logique de perdant-perdant. Donc, non, on a tout intérêt à trouver un accord pour porter le message.
Dans ces réunions, il est de plus en plus question de la numérisation des ondes courtes, du DRM. Où en est-on actuellement? Et de quoi a-t-il été question en matière de DRM à Tunis dans la dernière réunion à laquelle vous avez participé?
Le DRM aujourd'hui a fait l'objet d'expérimentations, n'a pas atteint le passage à l'échelle, hein, si on peut utiliser ce vocabulaire. Donc c'est une technologie qui est très intéressante parce que elle permet donc cette couverture à très longue distance. Elle permet d'assurer une qualité audio, et on va dire une qualité audio, elle est similaire à ce qu'on peut écouter avec de la FM, voire même un CD, on arrive à ce type de qualité. En plus, elle permet de véhiculer des images et du texte. Donc, ça permet d'avoir des applications de radio enrichies, mais ça permet aussi d'autres types d'applications, et il y a des projets dans ce sens d'ailleurs, par exemple des projets d'éducation. C'est-à-dire, dès lors que vous avez un flux, une capacité numérique, ben vous pouvez transmettre un contenu éducatif par exemple, donc c'est avec des images, avec une description, donc on va un petit peu plus loin même que la radio. Donc voilà l'enjeu, ça c'est l'enjeu du DRM aujourd'hui. On reste donc encore dans une phase d'expérimentation entre l'ensemble entre la communauté, je veux dire des diffuseurs ondes courtes, ben on a tous intérêt à aller dans ce sens. On attend un petit peu des industriels parce que la difficulté elle est plutôt dans le monde industriel pour développer des récepteurs à bas coût.
C'est ça le problème, c'est-à-dire que passer la numérisation de la diffusion veut dire qu'il doit y avoir également des équipements de la part des particuliers pour recevoir, donc avoir des postes, de nouveaux postes pour recevoir ce nouveau format d'onde, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc il faut que les industriels soient en mesure de proposer des petits récepteurs radio qui coûtent quelques dizaines de dollars.
C'est bien là la difficulté. Les récepteurs ondes courtes aujourd'hui valent très peu cher, donc ils peuvent être facilement déployés dans les pays en voie de développement. En revanche, malheureusement, les récepteurs numériques sont encore trop coûteux pour être déployés. Donc voilà, il faut trouver les leviers ensemble pour permettre aux industriels de développer des récepteurs bas coût et ainsi pouvoir les proposer sur ces marchés.
Moi qui n'y connais rien en termes de technologie, ce serait assez similaire à ce que l'on a maintenant, c'est-à-dire une antenne ici ou des antennes ici en France qui émettraient à l'autre bout du globe. Il n'y aurait pas besoin d'avoir des antennes relais quelque part sur la planète pour ces ondes numériques?
Non, pas du tout. On garde le même dispositif de propagation, juste de côté émission. Les émetteurs sont un petit peu particuliers. Ce ne sont pas exactement les mêmes que pour la diffusion analogique. Ils doivent être adaptés pour ces contenus numériques. Bon, en l'occurrence, à Issoudun, on a déjà deux émetteurs qui sont susceptibles de diffuser et qui diffusent d'ailleurs de temps en temps une émission en DRM.
Jérôme Irigoyen tient à me parler du DRM Cast, un boîtier développé par TDF qui représente un des futurs de la radio dans les zones en crise.
Alors, je vais vous parler du projet DRM Cast, du service DRM Cast. En fait, pour pallier au manque de récepteurs, tel qu'on l'a vu, nous avons une initiative à TDF de développer un service DRMcast, c'est-à-dire, en fait, c'est un service de diffusion DRM où le récepteur qui est capable de recevoir le contenu DRM et de le réémettre en Wi-Fi. Alors on l'a mis dans une boîte comme ça assez robuste parce qu'on l'a testé dans des conditions un peu difficiles, c'est-à-dire qu'on a considéré que ce type de récepteur il pouvait être utilisé dans des zones où les conditions météorologiques sont difficiles ou autres. Donc on l'a conçu de manière robuste et on l'a expérimenté d'ailleurs à deux titres. On l'a expérimenté par exemple sur des navires qui ne sont équipés d'aucun dispositif complexe, qui restent dans un esprit de navigation, on va dire, sommaire.
À la voile.
À la voile, exactement, sans électronique, en fait. Ils reçoivent un bulletin course, donc on les a équipés en test, on les a équipés d'un boîtier de ce type. Ça leur permettait de recevoir le bulletin course et ça leur permettait aussi de recevoir des cartes météo qu'ils pouvaient afficher facilement sur leur smartphone. Alors, je vais vous donner un autre exemple, une autre application sur laquelle on a commencé à travailler. Vous avez un camp de réfugiés, c'est-à-dire une zone privée d'infrastructures. À ce moment-là, on peut émettre une émission en DRM et réémettre localement auprès de la population, autour de quelques centaines de mètres autour de ce récepteur. Finalement, la population peut écouter les contenus. Ça m'amène un petit peu plus loin que ça, parce qu'on a même la notion de podcast. Un contenu, il est chargé à l'intérieur du récepteur et il peut être réécouté à la demande. Donc vous voyez, on est parti d'une transmission classique et on a rajouté des fonctionnalités liées au numérique. Voilà, c'est l'enjeu de ce projet DRMcast, de s'adresser comme ça à des applications de niche et d'utiliser tout le potentiel de la norme DRM.
On retrouve Philippe Ourdouilly, responsable du site Ondes Courtes d'Issoudun. Vous, quand vous avez commencé, c'était presque au moment de la chute de l'Union soviétique, c'est ça ?
Oui, c'était la fin d'une époque qui était les diffusions de courtes qui étaient faites dans le cadre de la guerre froide pour que chaque camp puisse exposer sa vision du monde. Et après, on est passé à une autre étape où la radio s'est plus orientée vers des contenus culturels et d'actualité.
Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, l'onde courte, que les autres n'ont pas ?
Elle est vraiment très robuste. C'est la source qui est conservée sans que le pays qu'on dessert ait besoin d'une quelconque infrastructure d'énergie, de relais, de pylônes, d'antennes. C'est le site de diffusion d'origine qui assure la continuité et qui est calibré pour marcher avec des ressources totalement reproductibles. Quoi.
Ce qui fait que le pays que l'on cible ne peut pas choisir de couper la diffusion de RFI s'il le souhaite.
Non, effectivement, ça c'est un des enjeux principaux, c'est qu'effectivement l'éditeur qui utilise la diffusion de courte est sûr que son contenu sera délivré dans le pays sans que celui-ci ait la possibilité de couper ses émissions.
Il peut essayer de le brouiller quand même ?
Il peut essayer, mais ça suppose qu'il ait des moyens de diffusion de courte lui-même de suffisamment puissants pour arriver à masquer le signal émis par TDF, c'est assez peu vraisemblable.
Et là, principalement, ce site ici à Issoudun émet principalement vers l'Afrique.
Oui, aujourd'hui, c'est les couvertures ou les zones d'intérêt, on va dire, et les zones où les gens ont encore besoin de ce type de technologie pour accéder aux informations, c'est l'Afrique et le Moyen-Orient.
Et puis aussi un petit peu l'Asie, avec l'Afghanistan notamment.
Voilà, et puis les zones de conflit, les zones effectivement où localement c'est difficile d'avoir un accès parce que les réseaux locaux ne sont pas en état ou ne sont pas forcément libres de contenu, l'onde courte a tout son sens.
Et si demain un de vos clients vous dit, voilà, il faut envoyer des signaux radio en ondes courtes, je ne sais pas, en Antarctique, vous êtes en mesure de le faire rapidement ?
Oui, nous on peut quasiment du jour au lendemain, compte tenu de la capacité de nos antennes à tourner dans n'importe quelle direction et à se reconfigurer à la demande, on peut étudier une couverture vers l'Antarctique, vers la Sibérie ou vers le Japon. En 24 heures, on peut mettre en place une diffusion dans n'importe quelle direction.
Qui dit onde dit électricité. Un site comme celui d'Issoudun consomme énormément d'électricité.
Oui, tout à fait. Notre travail, c'est de transformer l'énergie électrique en onde radio. Et pour qu'elle aille très très loin, il faut mettre beaucoup d'énergie. Donc effectivement, on a une forte consommation d'énergie, mais ramené au ratio de population desservie par chaque diffusion, ça, c'est finalement moins coûteux qu'une diffusion FM qui va couvrir à 100 km à la ronde. Nous, quand on allume un émetteur, c'est un quart de l'Afrique qui est desservie en une seule fois. Donc l'énergie, elle vaut le coup à ce degré-là.
On parle d'une technologie qui a au final peu évolué au cours des dernières décennies. Maintenant, on parle aussi de numérique au niveau des ondes courtes. Ça vous inspire quoi ?
Oui, c'est une techno qu'on a mis à disposition dans la bande de ondes courtes depuis une vingtaine d'années, depuis les années 2000. Les émetteurs ondes courtes sont capables soit de faire de la modulation analogique comme ils le font historiquement, soit de faire des modulations numériques. Au même titre que le DAB est en train de prendre le relais en FM, dans la bande ondes courtes, ça s'appelle le DRM. Donc lui est tout à fait capable d'assurer des couvertures en contenu audio, avec en plus des photos, des vidéos associées. Et on est en train de développer cette transition-là pour la mettre en place sur l'onde courte, on espère, à très court terme.
C'était Philippe Ourdouilly, responsable du site d'Issoudun, géré par TDF, qui émet donc les ondes courtes de RFI et d'autres radios. J'espère que vous en aurez appris, comme moi, beaucoup sur les ondes courtes, qui, je l'espère, ont de l'avenir. À celles et ceux qui écoutent cette émission via les ondes courtes, merci. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Petite parenthèse pour ceux qui m'écoutent en podcast. Pour tout vous dire, j'avais imaginé cette émission pour les 2 ans de la capture d'Olivier Dubois, qui écoutait donc la radio durant sa captivité au Mali grâce aux ondes courtes. Je suis évidemment très heureux qu'il soit libre. Je vous invite à écouter 2 programmes en podcast. Dans l'atelier des médias du 5 juin 2021, intitulé « Otages et radio, une histoire sonore », on montrait le rôle vital qu'a eu la radio pour certains otages et leurs familles avec les archives sonores de RFI et de Radio France. Je vous invite donc à réécouter en podcast cette émission. Je vous invite aussi à écouter le dernier épisode du podcast d'info de RFI, j'ai nommé Témoin d'actu, incarné par Alexandra Cagnard, dans lequel David Bachet, journaliste de notre service Afrique, raconte comment RFI a maintenu le lien entre Olivier Dubois et sa famille durant près de 2 ans de captivité. Enfin, je remercie Alain Daugé, un des responsables de la diffusion radio de RFI, avec qui je suis parti à Issoudun. Comme à chaque fin d'émission, place à Mondoblog Audio qui vous fait entendre une voix parmi les centaines de blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Aujourd'hui, le mondoblogueur togolais Roger Maoulolo, qui vit à Dakar mais a la chance de voyager en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, nous parle avec malice des toits en tôle que l'on voit un peu partout sur le continent et aussi de leurs trous.
En atterrissant à Yaoundé et à Douala, mon visage s'est fendu d'un large sourire quand j'ai vu que la majorité des maisons étaient couvertes de toits de tôle. C'est un phénomène que j'ai déjà connu au Togo. Pour ne rien arranger, lorsque le matin j'ai voulu admirer la vue depuis le balcon de mon hôtel, mon regard est tombé sur un homme réparant les trous dans les tôles de son toit. C'était sous une fine pluie matinale. Dans le quartier, vivre dans une maison au toit de tôle délabré peut vous valoir un sobriquet ou des railleries. Vous pouvez être appelé Zingi Homevi, ce qui veut dire littéralement celui qui vit dans une maison en tôle. On peut aussi vous appeler Hogbagbamevi, ce qui veut dire celui qui vit sous un toit délabré. Mais pire que les railleries, il y a les périodes de pluie. Les citoyens revenus modestes, n'ayant pas toujours les moyens de se procurer des tôles neuves pour leur toit. Et quand le ciel s'assombrit, c'est une véritable gymnastique qui s'impose. Des seaux ou des bassines sont posés sous chaque trou dans le toit pour récupérer l'eau qui s'infiltre. Il se peut même que le lit conjugal soit déplacé s'il se trouve directement sous un trou dans la tôle. Imaginez alors le chef de famille en pleine réalisation de son devoir conjugal qui reçoit la première goutte d'eau dans son dos. Tandis que beaucoup attendent cette pluie pour rafraîchir le climat ou arroser les terres cultivables, d'autres les craignent. Pour celles et ceux qui habitent dans des maisons en toit de tôle trouées, la pluie est une source d'inquiétude et de stress inimaginable. Pensez seulement à ce qu'ils vivent lorsqu'un visiteur est assis dans leur salon et qu'une pluie s'annonce. Malheureusement, aucun contrat formalisé ne régit les locations dans ces maisons appelées cours communes. La question des responsabilités pour la réfection des tôles rouillées percé ou endommagé suscite donc un débat toujours houleux. Les locataires, juge que ce sont les propriétaires qui doivent prendre en charge les réparations ou les remplacements. Ces derniers disent le contraire. Il arrive même que le propriétaire réponde aux locataires qui réclament les réparations, ceci. Ce qui est sûr, mon ami, quand il pleut, c'est que c'est toi qui es dans la pièce. Donc, c'est à toi d'y remédier. Malgré tout, celles et ceux qui vivent dans les habitations à toit dérabré en retirent une certaine expertise. Oui, ils sont les seuls capables de nous dire à quelle heure la lune apparaît dans le ciel ou combien d'étoiles scintillent au-dessus de leur maison. Ils sont aussi de très bons météorologues. Dès qu'ils entendent les lézards courir à toute vitesse sur la toiture et faire un vacarme d'enfer, c'est que la pluie est proche. Alors, si un jour, vous croisez un adulte qui proteste trop contre le match de football des enfants sous sa clôture, dites-vous bien qu'il peut s'agir d'un habitant qui a peur de voir cette eau rouillée rendre l'âme sous les tirs de ballon.
Mondoblog.org.
C'était le Mondoblogueur Roger Maoulolo Lasmoté. Un Mondoblog audio orchestré par Caroline Renaud. Vous pouvez en entendre plus d'une centaine d'autres sur le site de Mondoblog. L'Atelier des médias était cette semaine encore réalisé par Simon De Creuse. Si vous aimez ce programme, abonnez-vous au podcast pour l'écouter dès le samedi matin sur toutes les applications d'écoute. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, RFI Pure Radio et j'en passe. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier@rfi.fr ou un message sur Twitter. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias. Salut !